Il est 8h42.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, avec d'abord Claude qui nous appelle de Courbevoie. Bonjour Claude.
Bonjour, je vous salue tous, et madame en particulier, bien sûr. Ma question est la suivante. On parle de perte d'emploi due aux nouvelles technologies, alors 50%, 10%, enfin je vois que on n'est pas tellement d'accord, mais je n'ai pas entendu ou pas clairement les éléments de prospective qui permettraient de déterminer les emplois générés par les nouvelles technologies. Alors d'abord, quelles nouvelles technologies? Comment faut-il former les gens? Voilà, je n'ai pas ces éléments-là. Et je pense que c'est pas la peine d'être anxiogène si on ne d'avoir des propos anxiogènes si on ne fournit pas tous les éléments.
Merci Claude, effectivement. Dominique Méda, vous avez une réponse là-dessus?
Non mais entièrement d'accord. Moi je suis aussi, alors je dis pas critique, mais moi je lis les études qui paraissent. Donc c'est vrai que la plupart des études dont on a parlé, elles ne parlent que des destructions d'emplois et jamais des créations d'emplois. Et notamment, alors je vais pas parler de celles de la révolution technologique, mais de toutes celles qu'on devrait avoir grâce à la reconversion écologique. C'est-à-dire que, et ça c'est un point qui me paraît très très important, si on engage nos sociétés dans la reconversion écologique dès maintenant, alors on doit pouvoir créer des millions d'emplois durables. Et donc, il faut qu'on arrive à tenir ensemble les pertes d'emplois dues à la révolution technologique, la création d'emplois due à la reconversion écologique, hein, puisqu'il faut rebâtir tout notre système énergétique, il faut construire des transports propres, l'agriculture biologique, etc., etc. Donc là, on aura une grande quantité d'emplois. Et puis, j'amène un troisième élément dans le débat, un nouveau partage du travail qui permette que toutes ces mutations se fassent de façon un peu sécurisée et en répartissant l'ensemble du volume d'heures sur l'ensemble de la population active, avec un grand programme, donc certainement, de requalification.
Jean-Hervé Lorenzi, vous disiez tout à l'heure que ça fait 2 siècles et demi qu'on réfléchit à la façon dont la technologie peut détruire le travail. La révolution d'aujourd'hui technologique, elle est radicalement différente de celle du 19e et du 20e siècle, puisqu'il y a une intelligence artificielle, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à la mécanisation des dernières décennies.
Désolé d'être en contradiction avec ce que vous dites, mais non, le bouleversement entraîné à un moment, au tout début de la première révolution industrielle, celle de la fin du 18e siècle, a totalement changé l'organisation du travail dans le monde occidental, en démarrant au Royaume-Uni. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des mouvements, mais d'une violence absolue qui ont entraîné des tensions sociales. C'était le mouvement des luddites en Grande-Bretagne, c'est les Canuts de Lyon. Les gens, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on condamnait à mort en Grande-Bretagne un homme s'il essayait de casser une machine.
Le luddisme, c'est briser les machines.
C'est oui. Briser les machines. Le mouvement était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, pardon de le dire, je crois que notre auditeur a tout à fait raison de dire que cette présentation faite par des économistes très talentueux, des collègues exceptionnels, mais elle est quand même très anxiogène. Dans la réalité, évidemment qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés. Le vrai sujet n'est pas celui-là. Le sujet qui est très...
C'est la mutation.
C'est plus que la mutation, c'est le fait que le monde du travail est en train de... Et le marché du travail est en train de se bipolariser entre les emplois très qualifiés, c'est-à-dire peut-être 5-10%. Vous prenez le cas d'Amazon, qui est très caractéristique sur ce plan-là, et puis beaucoup d'emplois non qualifiés. En fait, en France, prenez l'année dernière, on a créé en net un peu plus d'entre 100 et 150 000 emplois. Donc, on n'est pas dans une période de on a été dans une période de destruction d'emplois, mais on n'arrive pas à en créer suffisamment, mais on n'est pas dans une période de destruction d'emplois. En revanche, la qualification des emplois qu'on crée est extrêmement faible. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous toujours sur cet exemple d'Amazon, l'immense majorité des emplois qui sont créés sont des emplois de gens qui font des paquets ou sont livreurs. C'est ça le sujet majeur des années qui viennent. Ouais. Et c'est beaucoup plus important que cette histoire de dire que 40%, 50%, 150% des emplois seront supprimés. C'est une vision qui est, je trouve, à mon avis, inexacte. Là, je pense comme économiste. En revanche, la difficulté des années qui viennent, c'est d'essayer de faire que cette fameuse qualification liée au progrès technologique, elle irrigue, y compris les emplois qui sont des emplois aujourd'hui, en réalité, très très peu qualifiés, très peu rémunérés. N'oubliez jamais qu'aux États-Unis, pour survivre, quand des gens sont en bas de l'échelle, il leur faut deux jobs.
Olivier, depuis Saint-Ouen. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Patrick Cohen. Tout d'abord, je voulais vous féliciter du fait, je crois que la tranche matinale à la côte. Et ensuite, bon, pour ce qui me concerne, en tant qu'auditeur de Radio France, mon écoute va de France Culture à France Inter. Enfin bon, ça c'est juste pour vous féliciter.
Merci, cher auditeur satisfait. Nous vous écoutons, Olivier.
Alors maintenant, j'avais une remarque, c'était à propos du chômage, où je me demandais si en fait ça avait encore une utilité de lutter contre le chômage, sachant, je crois, que la France est un pays dont la productivité est la plus forte. Donc s'il y a ça, est-ce que ça vaut encore le coup de lutter et de trouver impérativement du travail à tout le monde? Et sinon, il y a l'autre possibilité, c'est puisque on a une productivité très importante, et ben c'est aller vers une diminution du temps de travail pour à ce moment-là, résorber ce chômage.
Merci.
J'espère que la question est assez claire.
Mais oui, parfaitement, Olivier. Dominique Méda.
Ben oui, je suis entièrement d'accord avec cet auditeur. Alors, simplement, les choses se font pas comme ça, ne font pas brutalement. Et ce que je crois important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des gens sont encore attachés au travail. Moi, j'avais écrit en 95 un livre qui suggérait que le travail prenne moins de place dans nos vies. Et j'avais été surprise dans toutes les enquêtes sociologiques que j'avais faites après de voir combien, en effet, les personnes étaient encore attachées au travail, considéraient que c'était important de faire des choses, de contribuer à la richesse de la société, de trouver du lien social, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on essaye de synthétiser tout ça? C'est qu'en effet, il faut à la fois se battre contre le chômage, précisément, me semble-t-il, en partageant mieux le travail disponible, et en mettant donc en place tout ce qui permettra aux personnes de passer d'un emploi à un autre, et il faut garder un minimum de travail. Et ce que je vous raconte là, c'est ce que racontait Einstein ou Keynes, c'est-à-dire cette idée que, à mesure qu'on fera des progrès techniques et technologiques, il faudra réduire la place du travail dans nos vies, mais faisons attention à le faire bien, hein, une sorte de transition juste, c'est-à-dire pas tout pour les uns, rien pour les autres, mais en permanence une société qui fait des efforts pour que tout le monde soit ramené dans l'emploi.
Jean-Hervé Lorenzi.
C'est un point de désaccord majeur. Les expressions de Dominique, que je respecte infiniment comme opinion et comme personne, évidemment me choquent profondément. Il reste encore du travail. On a toujours l'impression que le travail est une sorte de, j'allais dire, de punition définitive. Moi, je ne pense pas ça du tout. Je pense qu'il y a des travaux qui sont très pénibles, très difficiles, que ça, il faut lutter contre ça. Évidemment, qu'il y a ce problème de bipolarisation du travail qui est ce qui marquera les années qui viennent. Je pense que quand on regarde bien les chiffres, je suis désolé de lire, mais la quantité de travail augmente, puisque la quantité de la population active augmente, donc il y a quand même une espèce de vision un peu, j'allais dire, rapide sur le travail. Et je trouve que notre réflexion dans une société comme la nôtre, la société française, c'est d'essayer de repenser notre organisation du travail en supprimant cette vision que beaucoup d'entre nous ont, d'une vision très hiérarchique, très pesante, très, au fond, passéiste de notre organisation. Mais par ailleurs, évidemment que le travail est un moyen de socialisation, un moyen de se retrouver, un moyen... Alors, là où l'auditeur a raison, on a 6 millions, en gros, de gens qui travaillent pas suffisamment, la plupart d'ailleurs demandant tous du travail, hein, au passage, mais cette idée que on puisse résoudre le problème par une répartition du travail, on en a vu les effets sur exceptionnels, j'allais dire, c'est exceptionnel, ma chère Dominique. Nous avons 6 millions de chômeurs et il se trouve que depuis 2003,
sur les 35 heures, c'est ça que vous allez dire?
Non, pas les 35 heures, parce que le 35 heures, en réalité, d'abord le 35 heures, ça n'est pas ce que nous travaillons en France, puisque comme l'a rappelé Valcière, on travaille 39 heures, donc c'est pas la réalité. C'est cette idée intellectuelle que il fallait le répartir sur un gâteau qui est fermé. Et c'est vrai que nous avons quand même des résultats qui sont plutôt les plus mauvais, en dépit de notre productivité exceptionnelle, de tous les pays développés. Donc il y a quand même à un moment un peu d'humilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une tendance naturelle à réduire le temps de travail, c'est évident. Mais de là à dire que c'est la solution, la répartition, ça me paraît quand même un tout petit peu rapide. études et, j'allais dire, en tout cas, pas vérifiées par les faits.
Dominique Gédard.
Non, mais juste un tout petit mot là-dessus. D'abord, je rappelle à Jean-Hervé Lorenzi qu'on a créé 2 millions d'emplois au moment de la réduction du temps de travail. Et ensuite, cette idée de répartition-là. Moi, j'aime bien comparer la France et l'Allemagne. En Allemagne, aujourd'hui, on a une fragmentation terrible de l'emploi. Alors d'accord, ils ont un meilleur taux de chômage que nous, mais derrière, ils ont un taux de pauvreté terrifiant. 22% des salariés sont pauvres, contre 8% en France, c'est quand même monstrueux. Et c'est dû à quoi?
C'est pas comparable. Enfin, pas tout à fait.
Ah bah pourquoi?
Mais parce que c'est le taux de pauvreté dépend du revenu médian. Et donc, il est différent selon chaque pays.
Ah d'accord.
Vous ne pouvez pas comparer les taux selon d'un pays à l'autre.
Si, parce qu'on n'est quand même pas très très
on
très
est pas très,
très
éloigné, mais c'est pas même... exactement la, non, le mais, même.
D'accord. Ça veut dire quand même que un quart des salariés en Allemagne sont pauvres.
Oui.
Bon, c'est, non, non, mais non, c'est très, très important. Oui. Dû à quoi? À la fragmentation de l'emploi. Et moi, je pense qu'un modèle où on réduit la durée normale de travail de tout le monde autour de 32 heures, c'est mieux qu'un modèle où les uns ont un grand temps complet et les autres, en général les femmes, des tout petits temps partiels dégoûtants pas payés.
Un dernier mot, Hervé Lorenzi,
non,
oui.
Non, mais je veux dire, il y a des évidences sur l'évolution du temps de travail et il y a des évidences sur le fait que notre pays se trouve être un des mauvais élèves de la classe pour l'emploi. Et il y a eu ce rapport il y a quelques années qui était la formulation, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui était écrit, mais la formulation était quand même assez juste, la préférence française pour le chômage.
Mais non, mais ça c'est complètement... Moi,
c'est ce que je pense. Mais Dominique, on n'est pas tout à fait d'accord, c'est bien.
C'est pour ça que vous êtes là, l'un et l'autre. Et on va marquer une petite pause avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver Frédéric Becbédé. Il est 9h05, bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour nos invités?
Oui, bonjour Jean-Hervé Lorenzi, bonjour Dominique Méda, merci pour ce débat ce matin. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué dans le débat d'hier, c'est que Manuel Valls a dit, quand on parle d'économie, il n'y a pas d'idéologie.
Et, il a dit ça?
Oui,
il a dit ça,
et oui. Effectivement, en les entendant, il y avait quand même deux visions qui s'opposaient, des thèses économiques contradictoires, et en vous écoutant ce matin, ça ne vient que confirmer cette intuition, idéologie ou pas idéologie, dans les propositions économiques des candidats, parce que ça dit beaucoup aussi sur le débat d'hier.
Bien sûr que c'est Dominique plein Léda. D'idéologie. D'abord, l'économie elle-même est une idéologie. Et aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où l'économie est complètement dominante. Moi, j'aspire à un monde où on parlerait d'autre chose et où on s'enverrait autre chose à la figure que des chiffres. Et puis, bien sûr, à l'intérieur de l'économie, plein de courants radicalement différents, comme ça a été illustré hier. Donc,
il y a de l'idéologie, Jean-Hervé Lorenzi.
Bien entendu. Il y a d'ailleurs deux expressions pour parler de l'économie, de ma discipline. Soit on dit sciences économiques, c'est le rêve d'une science chimiquement parfaite, et puis économie politique. Et évidemment, c'est de l'économie politique. La vie n'est jamais que de l'économie politique. Et ce rêve que la modélisation nous permette, cher Dominique, ou à vous comme à moi, d'avoir des décisions qui sont des décisions parfaitement rationnelles, est une aimable plaisanterie.
Ah, j'aime bien cette conclusion, à tous les deux. Merci à vous, Augustin Trapenard, Boomerang.